Radio Teolisa. Bonjour à tous, fidèles auditeurs de Radio Teolis. Une fois encore, merci de votre fidélité. Nous recevons ce jour un invité, Monsieur Patrick Dogo. Sans plus tarder, nous allons à la découverte de notre invité du jour. Monsieur Patrick Dogo, bonjour. Alors, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Teolis?
Bonjour, et mes salutations aux auditeurs et aux éditrices de la Radio Teolis. Je suis Patrick Essomptom Dogo. Présentation, je pense pas qu'elle doive être forcément longue. Je suis togolais de parents, de culture africaine parce que j'ai beaucoup de contacts africains, notamment je suis né à Dakar. Je suis aussi très occidental ou très français par mon histoire. De formation globale, je peux vous dire que je suis plutôt statisticien. Je suis d'une génération qui vient juste après les indépendances. Je suis très intéressé par l'histoire, c'est pour ça que je voudrais en parler, mais je vous le dis clairement, je ne suis pas un historien. Toutefois, tout ce que je dirais est forcément documenté. Nous avons beaucoup de ressources, notamment sur le Togo, beaucoup d'historiens dont je ne parlerai pas forcément aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir m'exprimer pour essayer de dire ce que je pense de beaucoup de choses.
Parlez-nous un peu de ces deux facettes qui font votre personne, cette partie africaine et justement ce côté occidental.
Sur la question de l'africanité et de l'occidentalité, je ne sais pas si mon africanité est vraiment indissociable de l'occidentalité. Simplement, je vais le dire, c'est en tant qu'Africain, je suis profondément attaché au respect de la nature, de l'ordre naturel, de l'homme, en tant qu'acteur dans le monde naturel, acteur dans le monde autant physique que mystique. Nous avons des traditions qui sont très profondes, bien que parfois hermétiques, et nous apprennent beaucoup. C'est un côté de l'africanité. J'apprécie aussi beaucoup l'art et la culture africaine qui a un symbolisme très fort. Dernier point, je me définis aussi par mon attachement à la terre. Je suis très attaché à la terre. C'est africain, mais je reconnais que dans d'autres populations, les Amazoniens, même des Corésiens, se définissent aussi comme proches de la terre. Manière de dire, après tout, il y a une passerelle entre l'africanité, si on veut dire, et l'occidentalité. Du côté occidental, la démarche des occidentaux dans l'organisation, la compilation, la rationalisation des savoirs me touche beaucoup, et ça me paraît ce que nous devons chercher à acquérir. Nous ne pouvons pas rejeter l'inspiration occidentale pour l'organisation de notre vie politique et économique, je veux dire globalement de notre développement. Toutefois, il nous faut absolument tout adapter à nos réalités locales. Selon moi, l'échange doit être permanent et nourrissant l'un et l'autre des côtés. On peut parler effectivement de pôle. Il me semble que c'est un ensemble.
Comprendre l'autre, c'est aussi comprendre sa part d'éternité. Que souhaiterez-vous que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en tout cas, se souviennent et se rappellent de vous? Et quelles sont les traces que vous souhaiterez laisser à l'humanité?
Les questions de part d'éternité me paraissent un peu personnelles. Mais bon, si je peux en dire quelque chose, pour moi, c'est mais le plus important, c'est surtout de poser des actes qui correspondent le mieux à ma conscience, qui sont le plus proche de ma nature. Je me considère comme humaniste et très tolérant. Et bon, si ça peut inspirer les personnes qui s'y retrouveraient, bon, c'est ce que moi je pense que je pourrais donner au mieux.
Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre projet et cette vision qui devait être forcément un plus pour l'humanité en général et à l'Afrique en particulier?
J'ai constaté que dans l'histoire de notre pays et de notre région, cette histoire ne nous a pas été suffisamment présentée, ne nous a pas été suffisamment expliquée, notamment par manque d'informations documentées. Pourtant, il est essentiel que nous connaissions nos origines. J'ai la conviction aussi que quand nous connaissons mieux, forcément, on se comprendra mieux. Plusieurs conflits entre populations, selon moi, pourraient être mieux gérés si la réalité historique était mieux expliquée. Il y a un devoir de transmission. Nous devons transmettre nos réalités à notre descendance. Il est sûr qu'on n'a pas la réponse à toutes les questions qui sont liées à notre histoire. Il y a beaucoup de questions dont nous n'avons pas les réponses. Mais je pense que le simple fait de diffuser les connaissances qui sont là, qui sont déjà établies, peut contribuer à faire progresser ce que nous savons et à ce que nous connaissons mieux. C'est pour ça que tout cela me paraît important, me tient à cœur. Il est important que nous transmettions, n'est-ce pas, à tout le monde et aux générations futures.
Pourquoi ce projet vous tient-il à cœur, Patrick Dogo ?
Il m'a paru important de commencer par l'histoire au moins du peuplement du Togo. Bon, je ne suis pas historien, comment tout le monde le voit, et il me semble qu'il y a des choses qui sont importantes dont il faut tenir compte. Selon moi, le Togo, on ne peut pas le concevoir en tenant compte des frontières actuelles, parce que celles n'ont pas de sens, elles sont héritées de la colonisation, et quand on regarde le contexte géographique, topographique, le Togo est une sorte de bande quand même. Si on le voit avant la colonisation, c'est strictement bordé par des frontières naturelles qui sont l'Oti, la Volta. Donc quand on descend du nord jusqu'au Ghana, Volta Region, le Mono, quand on part des monts Tchaoudio jusqu'à donc Grand Popo, où le Mono se jette, donc qui sont des sortes de frontières naturelles. Quand on regarde les chaînes montagneuses qui partent depuis Palimé jusqu'à l'extrême nord, aux confins de Dapan, et qui traversent le Togo plus presque de travers, effectivement, ça contrôle aussi le peuplement. Après, nous avons des plaines qui sont parcourues comme par des fleuves moindres, comme le Hao, le Zio, mais des zones qui sont très cultivables. Tout cela joue sur la population, le peuplement du Togo, qui est une bande assez, qu'on peut considérer comme ayant été un peu vide pendant un peu longtemps. Maintenant, la population, on va nous parler toujours de la question des autochtones, des non-autochtones, qui finalement, selon moi, ne se résout que par une question d'ancienneté. Mais partout, on a des autochtones, des non-autochtones. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les autochtones ne sont pas localisés sur une région du Togo. Sur tout l'ensemble du Togo, d'après les historiens, il y a des populations qui se considèrent comme autochtones. Après cela, on va rentrer dans ces détails-là. Bon, notons que nous avons clairement aussi des populations qui sont venues clairement de l'extérieur, qui sont très documentées, notamment au XVIIe siècle, les Guin-Mina du Ghana, notamment les Anoufo, Tchokossi, Côte d'Ivoire. N'oublions pas que le Togo a été une terre de refuge pour les populations fuyant les guerres et beaucoup l'esclavage. Ça a duré, parce que le Ghana et le Bénin, à l'époque Dahomey, qui sont des colonies respectivement britanniques et françaises, le sont depuis le milieu du 19e siècle, officiellement, bien que tout le monde sait qu'il y a eu des marins étrangers avant. Mais notez que le Togo n'a été colonie allemande. Et d'ailleurs, nous allons en reparler, si vous le voulez bien, qu'à partir de la fin du 19e siècle, 1884, Gustav Nachtigal. Je peux donner quelques éléments sur la population pour le niveau de densité qui n'a pas vraiment forcément changé depuis et qui a été assez important. Enfin, les densités les plus importantes se sont toujours retrouvées. Il y a trois pôles de haute densité qui sont remarquables. L'extrême nord du côté Mopa-Gourma avec 80 habitants au kilomètre carré. Le pays Cabré, très montagneux avec des massifs montagneux particulièrement fertiles. Il y a eu une agriculture extrêmement intensive. On est arrivé à entre 80 et 100 habitants par kilomètre carré. Et il y en a le pôle le plus dense, finalement, est aussi le sud-est, entre Anéo et Tablibo. On a pu arriver à plus de 200 habitants au kilomètre carré. Il faut noter que ces terres-là sont des terres de bar très riches. C'est des plaines qui sont aussi assez faciles à travailler. Voilà un peu ce que je peux dire sur la population, le peuplement du Togo. Je ne suis pas trop rentré dans l'historique parce que je pense qu'on pourrait rentrer plus longuement dans les prochaines émissions. Maintenant, en termes de peuplement sur le plan numérique et sur la définition de ce qu'on a présenté comme autochtone ou allogène, je vais plutôt me concentrer sur la... Je vais le faire plutôt sur une question plutôt culturelle. C'est-à-dire, globalement, on va prendre la culture des gens, où tout le monde se reconnaît, essayer de voir à peu près, en termes de culture, quelle est la répartition en groupe culturel au Togo. Les derniers chiffres que j'ai ne sont pas très récents, mais ne peuvent pas non plus être trop datés parce que la situation ne change pas globalement. Que tout le monde m'excuse si je ne donne pas le détail des populations, mais je donne de la globalité, de la manière culturelle. Les premières populations dont je vais parler sont les populations Adjatado, dans lesquelles nous mettons les Évé, les Wanti, les Guin, les Mina, les Adja, je ne sais pas quel est l'ordre d'ailleurs, parce qu'on pourrait me dire de commencer par les Adja, mais j'ai dit quand même les Adja Tado, qu'on estime à peu près à 44%, qui sont plutôt dans le sud. Nous avons les populations du Moyen Mono, qui ne sont pas énormes, parce que souvent sont des populations, quelques-unes autochtones, mais en général les Ifé, les Fon, les Maï et les Anyanga, qui sont à peu près dans les 3%. Nous avons les populations des plateaux de l'Ouest, qui sont les Akposso et les Akebu, qui sont dans les 4%. Les populations des chefferies du Nord, on va prendre les Kotokoli, les Tchamba, les Chokossi, les Bassar, qui sont dans les 10%. Les populations des massifs et Piémont du Nord, qui sont dans les 21%, qui sont bien sûr les Kabiel, les Nordeba et les Lamba. Les populations des plaines et des plateaux de l'extrême Nord, 14%, qui sont les Moba, les Gourma, les Konkomba, les Peuls et autres. On terminera par les, quand même, 4%, les Aoussa, les Yoruba, voilà. En gros, c'est un peu la situation des populations du Togo. Ça bouge, mais globalement, ça ne change pas énormément. Sauf qu'il est vrai que ça devient de plus en plus citadin. Pour parler de l'autochtonie, qui est une notion qui n'est pas si simple, parce que on finit par définir les autochtones comme ceux qui sont les plus anciens. Donc nous allons dire des présumés autochtones. Et nous allons prendre quelques critères. Là, je me base beaucoup sur les travaux des universitaires togolais pour le dire aujourd'hui. Donc, il faut que vous compreniez, nous avons trois groupes de présumés autochtones au Togo. Nous ne pouvons pas réfuter tout ce qui est autochtone, mais on essaye de le faire, et là je me base sur les travaux des universitaires togolais. Nous disons aujourd'hui que les autochtones sont liés d'abord, bien sûr, à leur ancienneté. Mais l'ancienneté, on va le dire, est il y a certaines bases. Donc on parle notamment du cadre géographique, donc on parle de la montagne, donc ceux qui ont développé une culture qui est liée à la pierre et à la montagne. Nous avons les Ntribu, les Akebu, les Akposso, les Nyobo du Moagou, les Sola, les Kabiel, les Lamba et parfois certains Kotokoli. Ensuite, nous avons une autochtonie qu'on peut lier à l'activité économique. Il y a certaines populations qui ont développé depuis une civilisation du fer. Donc on peut penser qu'elles sont là depuis longtemps. Les clans Bassar, les Alous, il y a des gens de Tado aussi, n'est-ce pas? Il y a des autochtones qui sont dans les plaines. On peut estimer qu'ils sont dans les plaines parce que quand on regarde la caractéristique de leur manière de s'exprimer, on voit bien qu'il y a une langue originelle. Donc, c'est les gens du bassin de l'Oti, Oti-Volta, donc les Betambarimbe, les Tamberma, en fait, les Nachaba, les Konkomba, les Moba, les Naudeba. Donc, c'est ce que nous voyons comme autochtones. Bon, ça peut être approfondi, c'est juste une manière de voir.
Dans la vision de vos prochaines émissions, pouvez-vous nous dire en quelques mots les grands événements de l'histoire du Togo ?
Les grands événements de l'histoire du Togo, moi je veux juste être dans la chronologie. Et ce que je pense, ce que moi je peux offrir, et ce que la question dont on peut discuter, il n'est pas nécessaire qu'on aille très loin. On peut retourner sur une question des premiers peuplements du Togo. Parce que c'est important, ça on peut se dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes aussi. Deuxième point, c'est les premières formes d'État du Togo. Comment comprendre qu'il y avait des formes d'État dans ces petits couloirs de terre, dont notamment quelques chefferies du Nord, avant les grandes chefferies de Tado. Savoir aussi que beaucoup de populations étaient acéphales. Il y a la question de l'esclavage du Togo. C'est très important aussi de discuter de tout cela parce que il y a des liens familiaux presque impensables qui se sont liés, même dans les questions d'esclavage. Il y a beaucoup de grands hommes qui n'ont eu comme maman que des esclaves. Je ne le dis pas avec dédain, mais je le dis pour dire que c'est vrai. C'est des choses dont on peut parler. La création du Togo, c'est quelque chose d'important. Le Togo est allemand par hasard, je le dis souvent. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Le Togo vers l'indépendance, voilà des sujets dont on peut parler. Les sujets peu connus de l'histoire du Togo dont on me parle, je reviens avec la création du Togo, je reviens avec l'histoire de Lomé, je reviens avec l'histoire des métis allemands qui est un peu poignante. C'est très beau. Je reviens avec l'histoire des résistants au Togo qui sont inconnus. Il y a des résistants qui ont soutenu le roi Béhanzin, comme la Jakwenzoum de Tado. Bon, il faut qu'on en parle. L'histoire d'Anéo qui est très, très belle, avec tout ce que Fio Agbanon a fait et en tant que folie bébé, puisqu'il était roi de Gligi. Bon, l'histoire de Kra, avec son cimetière allemand, l'histoire des déportations nordiques, voilà.
Pour finir, M. Patrick Dogo, quels sont les grands hommes, notamment grands chefs du Togo, et quel lien avec l'actualité plus récente?
Lorsqu'on me pose des questions sur les grands hommes du Togo, je dis les grands hommes du Togo, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas que politiques, ils sont sur le plan économique, culturel. Les grands hommes sur le plan récent, je ne pourrais pas en parler, mais nous avons des grands hommes. Je parlerai de la notion de chef supérieur comme de Yovo Fio qui a existé à un moment. Nous avons de très grands chefs. J'ai cité tout à l'heure Agbanon au sud. J'ai cité Ajakmozum à Tado. Nous avons des chefs Lawson très influents. Nous avons, même si c'était acéphale au nord, nous avons le chef Kalenga dans la zone de Kara, les chefs comme Nabiema Monsafo dans la zone de Mango. Il y a beaucoup de choses à dire. Il n'est pas à dire que tous ces chefs sont forcément de grands hommes, mais ils ont été à un moment ceux qui ont donné la lumière, qui ont été les guides pour des populations qui n'y comprenaient rien, qui n'y savaient rien. Donc il me semble que ces institutions-là persistent dans les cœurs de nos populations et qu'il est important que nous reprenons tout ça un peu. Nous essayons de comprendre toute cette vie-là pour que la courroie de transmission persiste. Donc Radio Théoliste, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Nous pourrons aller plus loin dans d'autres émissions. Merci à tous.
Radio Théoliste.